Radio Okapi. Grande interview.
Une année après la signature de l'accord global et inclusif du centre interdiocésain, quel bilan dressé de sa mise en application? Qu'en est-il des funérailles d'Étienne Tshisekedi? Grande interview reçoit Félix Tshisekedi, président du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, pour répondre à ces questions et à bien d'autres que vous vous posez. La supervision de cette émission est assurée par Tina Salama, la réalisation par Dona Madimba et la présentation par Alain Irung. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Félix Tshisekedi, bonjour.
Bonjour Alain Irung.
Vous êtes président du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Comment allez-vous?
Je vais bien, merci. Malheureusement, le pays va mal.
31 décembre 2016, 31 décembre 2017, voilà plus d'une année que l'accord de la Saint-Sylvestre a été signé. Quel bilan dressez-vous de sa mise en œuvre?
Calamiteux, bien évidemment, parce que rien n'est fait. Le pouvoir a tenté de dévoyer ce qui a été convenu à la CINCO. Et aujourd'hui, nous avons une crise très grave à cause évidemment de ces errements du pouvoir en place. Et aujourd'hui, l'exigence est de retourner à cet accord. Nous disons tout à fait d'accord pour revenir aux prescrits de cet accord, mais sans les responsables des errements dont nous sommes aujourd'hui victime.
Alors quand vous dites que rien n'est fait pour vous pour que l'accord soit appliqué, en dehors des mesures de décrispation politique, il faudrait que Félix Tshisekedi soit Premier ministre.
Les mesures de décrispation politique, il ne faut pas les négliger. Elles sont à la base de beaucoup de choses. C'est à cause de ces mesures-là, évidemment, qu'il n'y a pas d'avancée. Ce n'est pas vraiment à cause des individus. Que Félix Tshisekedi soit Premier ministre ou pas, là n'est pas le problème. Le problème, c'est le contexte dans lequel nous allions avancer pour arriver à des élections qui soient acceptables, donc crédibles. Or ici, on a vu que la situation est très brouillée par ceux qui sont au pouvoir, ce qui fait que c'est très difficile évidemment d'aller à des élections et donc à une alternance. Tout est fait par M. Joseph Kabila pour ne pas qu'on y arrive, et c'est ça qui est dommage. Mais ça n'a rien à voir avec les individus.
Une année passée, vous exigez qu'on retourne à l'accord, à sa mise en application intégrale. Est-ce que cela ne pourrait pas retarder les élections si on devait reprendre aujourd'hui?
Non, pas du tout, parce que les élections, vous le savez très bien, nous avons un calendrier boiteux qui nécessite en tout cas un toilettage, ce qui fait que celui-ci est à dissocier du contexte politique. Le contexte politique doit être convenable, doit être conforme à ce qui a été convenu à l'accord lors de la discussion qui a accouché de l'accord du centre interdiocésain. Et donc, c'est ce contexte-là qui doit nous amener à des élections. Donc, il n'y a pas de risque si le contexte lui-même est appliqué. On a parlé de la décrispation, mais on parle aussi évidemment du gouvernement et du CNSA qui doivent tous être conformes à l'accord afin que nous puissions aller à des élections crédibles.
Vous demandez qu'on retourne à l'accord sans ceux qui ont brouillé la mise en œuvre de cet accord. Et là, vous êtes dans une logique de transition sans Kabila. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que vous rêvez debout?
Je réponds que c'est plutôt eux qui rêvent debout.
Et comment vous pensez y parvenir à une transition sans Kabila?
Mais par la détermination, tout simplement. Vous savez, il y a quelques mois d'ici, nous étions seuls. On va dire seul en tant qu'opposition, le Rassemblement, à dire non à tout ce qui se passait. Parce que pendant ce temps, les autres amis de l'opposition étaient soit au pouvoir, soit en train de discuter pour aller au CNSA ou que sais-je encore. Aujourd'hui, tous ces amis de l'opposition sont alignés sur la même position que nous. Et nous avons même élargi ce front à l'Église, aux Églises. Depuis hier, on sait que l'Église protestante a aussi le même point de vue que l'opposition, que l'Église catholique, c'est-à-dire il faut aller à des élections qui amènent un changement parce que les Congolais ont besoin d'un mieux-être et qu'on ne peut pas confisquer le pouvoir parce qu'on a le contrôle de l'armée et de la police entre ses mains et qu'on puisse croire qu'on détient comme ça le droit de vie et de mort sur nos concitoyens.
Vous dites avoir élargi le front aux églises, mais est-ce que ce ne serait pas le contraire? Est-ce que ce ne serait pas le rassemblement, l'opposition en perte de vitesse qui va se greffer plutôt sur les œuvres de l'Église?
Je m'inscris totalement en faux contre cette affirmation, tout simplement parce que les fidèles qui vont dans les églises sont des membres de partis politiques, vous vous imaginez bien. Il n'y a pas que des gens totalement coupés des réalités de la vie quotidienne qui vont dans les églises. Ce sont les militantes et militants, combattantes et combattants que nous côtoyons tous les jours. Je voudrais, pour preuve aussi de ce que j'avance, que nous avons fait des descentes à la base nous-mêmes. Nous sommes allés dans les quartiers pour mobiliser, demander aux gens d'aller dans les églises. Et si cela a été fait ainsi, c'est que nous revendiquons aussi la paternité de cette action, même si l'initiative est venue du CLC, Comité de coordination laïque. Mais nous revendiquons. Il n'y a pas de perte de vitesse qui soit. Aujourd'hui, tous les Congolais sont conscients qu'il faut un changement. Et le rassemblement que je dirige incarne parfaitement ce changement. J'en veux pour preuve également tous les témoignages de sympathie dont je fais l'objet partout où je passe.
Vous dites que la détermination est la seule arme pour arriver à une transition sans Kabila. On a vu le rassemblement appelé à des manifestations qui n'ont pas été suivies à certains moments, qui ont donné lieu à des villes mortes, et plusieurs analystes ont l'impression qu'il y a une certaine confiance, que la population n'a plus du tout au rassemblement. Mais quand c'est l'Église catholique qui appelle, on a vu une certaine mobilisation.
Je crois que c'est vraiment faire plutôt une analyse politique biaisée que de dire ça. Parce que tout simplement, on est au courant. Tout le monde sait avec quelle violence nos manifestations sont réprimées. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. À chaque fois qu'on programme une action quelconque, il ne manque pas d'y avoir des personnes qui sont blessées, arrêtées, voire mortes. La faiblesse, j'allais dire, de l'action qui est la nôtre, c'est de devoir indiquer un point de départ. Et à partir du moment où nous avons indiqué ce point de départ, la police quadrille tous les environs et empêche les gens de converger vers ce point-là. C'est pour ça qu'on conclut à cela. Mais dans le cas de l'Église catholique, c'était impossible d'empêcher les fidèles d'aller à l'Église. Mais vous avez vu ce qu'ils ont fait ensuite. Ils n'ont pas hésité à profaner les lieux de culte, à gazer des gens en pleine Église, à tirer sur les fidèles. Et c'est exactement ce qu'ils nous font, sauf que nous n'arrivons pas au point de ralliement. Mais c'est exactement la même chose. C'est la répression qu'il faut mettre ici en exergue et non la faiblesse de l'opposition. C'est vraiment une erreur totale. Regardez nos amis de l'opposition qui sont allés tout récemment au Kassai. Ici, je fais allusion à Claudel Loubaya et à Délice Essanga. Regardez avec quel engouement la population les reçoit. Donc c'est clair. Pourquoi est-ce que vous voulez d'autres indications?
En parlant de ces manifestations auxquelles appelait le rassemblement, pourquoi Félix Tshisekedi fuit-il les manifestations? On ne le voit pas dans des manifestations comme le faisait feu Étienne Tshisekedi, son père.
Écoutez, je crois que ceux qui disent ça, soit ils ne me connaissent pas, ou alors ils se laissent manipuler par cette espèce de campagne de dénigrement. Je crois que je n'ai plus de preuves à démontrer de ce côté-là. Je ne crois pas d'ailleurs que cette lutte de libération de cette dictature tienne à une sorte de démonstration d'énergie, de courage, de témérité. Ça n'a pas de sens.
Mais feu Étienne Tshisekedi a prouvé le contraire en son temps.
J'ai fait autant. Je n'ai pas ici à commencer à dénombrer les manifestations.
Du moins pour rassurer ceux qui se posent ces questions.
Mais non, ils n'ont pas à se poser ce genre de questions. Qu'ils regardent dans leurs archives, dans les manuels d'histoire, ils vont voir que moi j'ai participé à des manifestations encore beaucoup plus graves que celles dont on me disait avoir fouillé. Donc moi, je ne rentre pas dans ce genre de débat. Parce que pour moi, ce sont des arguments de faibles, des arguments utilisés par des gens qui sont eux-mêmes complexés par mon ascension, par le leadership que j'incarne et qui veulent absolument me salir. Mais bon,
et donc, vous ne fuyez pas les manifestations, vous n'envoyez pas les enfants des autres à la mort.
J'ai moi-même marché, j'ai moi-même essuyé des tirs, etc. Et il y a bien longtemps d'ici, en 2005, je l'ai fait déjà, première manifestation, grande manifestation que nous avons tenue. Vous vous souvenez ici, le 30 juin 2005, nous avions paralysé le pays entier. C'était le 45e
anniversaire. Mais dans les manifestations récentes, Félix,
c'était le 45e anniversaire du pays. Donc on a réussi à paralyser ça. Donc c'est pour vous dire que ça date pas d'aujourd'hui. Récemment encore, on a vu des images à Lubumbashi. Je ne brandis pas ce genre de choses parce que je ne crois pas que le contexte dans lequel nous sommes soit un contexte où on doit dire aux uns qu'ils sont les meilleurs et aux autres qui sont à mettre de côté. Nous sommes dans un contexte où nous devons unir les forts et les faibles. C'est le pays qui est en danger, c'est ça qui est le plus important.
Radio Okapi. Grande interview.
Félix Tshisekedi, président du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Quels sont les effets produits par ces manifestations auxquelles vous appeliez? Est-ce que c'est efficace
Mais si ce n'était pas efficace, ça n'énerverait pas le pouvoir. Pourquoi est-ce que le pouvoir s'en prend aujourd'hui injustement à l'Église catholique, au cardinal Mosengo? Pourquoi? Demain, je suis sûr que c'est le pasteur Ekofo qui va être la cible du pouvoir. Si ce n'était pas efficace, le pouvoir permettrait ce genre de choses. Pourquoi est-ce qu'il réprime ces manifestations avec une telle violence? C'est pour vous dire que c'est efficace. Ceux qui pensent que c'est inefficace se trompent complètement. Il n'y a qu'à voir le comportement du pouvoir, la nervosité qui s'empare de lui, pour comprendre que ce que nous faisons ou que nous voulons faire est très important. D'ailleurs, moi j'ai toujours dit, c'est l'arme la plus efficace pour lutter contre une dictature. Lutter pacifiquement, marcher pacifiquement, c'est la plus efficace.
En début de cette émission, vous avez dit que le calendrier électoral était boiteux. Et en parlant des élections, la majorité présidentielle, quant à elle, elle affirme qu'elle se prépare aux élections. Pour preuve, elle a mis en place une centrale électorale. Mais du côté de l'opposition, c'est silence radio. Si on organisait des élections aujourd'hui, à quoi devrait s'en tenir l'opposition?
Mais écoutez, l'opposition tient d'abord aux règles du jeu. Nous ne voulons pas servir d'accompagnateur et arriver dans un contexte électoral qui est totalement biaisé. Nous avons un sérieux problème avec la CENI et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Aujourd'hui, il y a une ASBL ou une ONG, je crois que c'est l'ODEP, qui a épinglé la mauvaise gestion de la CENI. Nous-mêmes, au rassemblement MSR et UDPS, avons besoin de désigner nos délégués dans le bureau de cette CENI qu'on nous refuse, parce qu'on veut maintenir des gens au comportement douteux et qui n'ont aucun contact depuis qu'ils sont partis avec leur parti censé être d'origine. Donc tout cela dénote de l'intention malveillante qu'il y a derrière ce jeu politique. Et nous ne pouvons pas aller dans un contexte aussi biaisé de crainte de nous faire avoir un peu à la manière de ce qui s'est passé en 2011. Voilà pourquoi nous exigeons que tout soit clair avant d'aller aux élections. Et je ne vous parle pas ici des dédoublements de partis politiques. Aujourd'hui, l'UDPS en fait les frais. Donc c'est pour vous dire que tout est désorganisé dans notre camp par le pouvoir pour pouvoir ainsi aller à des élections à leur manière, à leur sauce. Et ça, nous n'acceptons pas. Voilà pourquoi nous nous battons pour ramener les choses à leur vraie valeur et pouvoir ainsi aller à des élections sans contester les résultats plus tard.
Félix Tshisekedi, l'opposition a plusieurs personnalités qui sont déclarées candidats. Il y a Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, on parle de vous-même. Et la semaine dernière...
Moi, je n'ai pas encore déclaré.
Voilà, peut-être que ça le sera en temps opportun. Tout récemment, Moïse Katumbi a appelé à une candidature unique de l'opposition. Est-ce possible du moment où l'on connaît les égaux au niveau de l'opposition?
Oui, je crois que c'est possible, mais malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, le contexte ne s'y prête pas encore. C'est-à-dire, il y a plein de choses à toiletter, il y a plein d'écueils à
évacuer
de la voie qui nous mène à des élections, et nous devons d'abord nous concentrer sur ça. Lorsque nous serons sûrs que nous pouvons aller dans une compétition à armes égales, à ce moment, nous pourrons parler de l'unité de l'opposition, parce que en fait, ça dépendra du contexte aussi, voyez-vous. Si, comme nous le souhaitons, nous, ce chemin, ce que nous appelons, nous, une transition vers les élections, se passe sans Kabila, mais le jeu devra être refait, vous comprenez. Nous n'aurons plus voir affaire ni à Kabila, ni à un de ses dauphins.
Ça, donc, ça veut dire à ce moment-là que le compteur est à zéro, toutes les institutions à zéro. Qu'est-ce que vous faites? Vous nommez des députés? Comment ça va se passer, la transition sans cabinet?
Non, mais évidemment, ça doit se faire de manière concertée. Ça doit se faire de manière concertée.
En dehors de la Constitution.
Aujourd'hui, au moment où nous parlons, mais nous sommes déjà en dehors de la Constitution. Pourquoi est-ce que vous tenez à cette Constitution que ce pouvoir a tout fait pour essayer de piétiner? Au contraire, si la Constitution tient aujourd'hui, c'est grâce à nous. Parce que la manœuvre du régime, vous le savez, c'était évidemment d'amener un référendum, de balayer cette constitution et de pouvoir repositionner Joseph Kabila. C'est parce que nous avons tenu, nous avons insisté et nous remercions aussi la communauté internationale de ce côté-là qui, elle aussi, a martelé le fait qu'on ne devait pas toucher à la constitution. C'est pour ça qu'elle est là. Et donc, nous, ce que nous voyons, nous, dans ce que nous disons d'après Kabila, nous partons d'abord d'un constat. Celui qui est là, clair devant nous. Aujourd'hui, toutes les institutions à mandat électif sont illégitimes. Donc, il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose que nous proposons, nous, c'est une transition qui est dirigée, évidemment, qui est menée par des personnalités émanant de la société civile, qui elles-mêmes s'engageraient à ne pas se représenter aux élections futures et donc qui vont avoir les coudées franches pour pouvoir organiser des élections qui soient crédibles.
À ce moment-là,
dans une période très courte, on peut faire cela et aller à des élections, donc à ce moment-là, sans problème.
À ce moment-là, qui mettrait Joseph Kabila de côté? C'est la société civile, c'est la communauté internationale?
Le peuple congolais. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas plus efficace que les marches pacifiques qui sont organisées avec détermination.
La majorité dit que vous préparez un coup d'État.
Mais la majorité, elle divague. On ne prépare pas un coup d'État avec des bibles et des chapelets en main, quand même. En sérieux.
La dernière actualité, c'est aussi cet échange de courriers entre le G7 et vous. On a l'impression qu'il y a un malaise au sein du rassemblement, que vous n'ayez pas la même vision quant à la transition sans Kabila. On a suivi sur certains médias d'autres leaders du rassemblement commencer à tergiverser quant à cet aspect.
D'abord, je dirais que ne pas avoir une même vision, une même approche sur un élément est tout à fait acceptable. C'est la preuve qu'au rassemblement, il n'y a pas une pensée unique et que nous discutons démocratiquement. Ça, c'est clair. Ça ne doit faire peur à personne. Et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est inhérent à toute organisation politique. Il faut politique démocratique. Donc ici, il n'y a pas quelqu'un qui décide de quelque part en haut et nous disons amen en bas, comme on le voit ailleurs. Chez nous, c'est la démocratie, on discute. Le rassemblement, c'est 10 composantes et il faut gérer cela. Je vous renvoie un peu à l'Union européenne. Vous voyez, eux, ils sont à 28. Vous voyez aussi les difficultés qu'ils ont. On n'a jamais dit que l'Union européenne était divisée pour autant. C'est tout à fait donc normal. Pour revenir à cette affaire de courrier, ce courrier, évidemment, m'a été destiné, mais malencontreusement, il s'est retrouvé dans le public, sur les réseaux. Et ça, le président Pierre Lumbi, qui en était l'auteur, a tenu à présenter ses excuses dans la dernière plénière que nous avons eue. Et ensuite, il s'est suivi un débat pendant plusieurs heures pour, évidemment, arriver à harmoniser nos vues et nos sons de cloche. Et aujourd'hui, je peux vous dire avec grande satisfaction que nous sommes sortis de notre dernière réunion du lundi passé vraiment accordés comme des violons. Donc il n'y a aucun problème au rassemblement aujourd'hui, tout va bien.
Si vous venez de nous prendre en cours, sachez que grande interview reçoit aujourd'hui Félix Tshisekedi, président du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Félix Tshisekedi, presque une année après décès du président Étienne Tshisekedi, il n'est toujours pas enterré, pas de funérailles nationales. À quel niveau se pose le problème?
Au niveau de la bonne foi de ceux qui dirigent ce pays par défi. Il s'acharne sur la dépouille de notre leader uniquement par vengeance.
On se souvient qu'en dernier lieu, un compromis a été trouvé pour Rousselet. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
C'était de la mascarade. Ils nous ont menés en bateau. Ce compromis que nous pensions être un compromis n'en était pas un en réalité. La preuve est là. Lorsque nous avons signé ce communiqué, nos deux délégations, celle de la famille biologique et de la famille politique, Nous pensions que celle qui était représentée par le ministre de l'Intérieur allait signer. On a couru 2 mois derrière lui pour qu'il appose sa signature. Et lorsque ma mère a fait une sortie médiatique sur TV5, à ce moment-là, il a apposé sa signature, mais ils ont jeté ce courrier dans les réseaux sociaux pour que nous en soyons informés. Mais de même comme ça, ils n'ont même pas eu la décence, encore moins la politesse, de venir nous le dire eux-mêmes. Donc c'est pour vous dire l'état d'esprit qui les anime, le mépris qu'ils ont pour nous et surtout pour la dépouille de notre leader. Mais bon, ça, c'est ça qui nous pousse maintenant à vouloir faire les choses nous-mêmes.
Mais est-ce que l'UDPS et la famille n'ont pas aussi une certaine part de responsabilité lorsqu'on se souvient qu'à un moment, le gouvernement a proposé un carré au cimetière de la Gombe et que vous avez refusé?
Oui, mais nous avons refusé en donnant des raisons. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Venir peut-être nous reproposer autre chose, ou ne fût-ce que nous demander pourquoi nous avions refusé.
Parce que pourquoi vous aviez refusé?
Le refus n'était pas, mais pour la sérénité évidemment, la paix est dans la ville. Je sais pas si vous étiez dans la ville ici, mais il y a eu une agitation terrible à cette époque-là. Nos militants ne voulaient rien entendre de tout ça. Et puis, vous le savez très bien, un événement pareil aurait drainé du monde. Il fallait encadrer tout ce monde. Regardez l'espace qu'on nous donnait à côté du cimetière de la Gombe. Est-ce qu'on allait pouvoir contenir tous ces millions de gens qui allaient converger vers le lieu? Donc, c'est de tout cela qu'on devait discuter.
N'est-ce pas un endroit idéal pour que même la communauté internationale et tous les touristes qui viennent puissent venir honorer la mémoire du président Tshisekedi?
Je veux bien tout cela. Mais lorsque il y a eu cette agitation, nous n'avons vu le pouvoir nulle part pour venir nous dire, voilà, les mesures d'encadrement qui vont suivre cela. Et donc, lorsque nous avons évalué nous-mêmes le danger qu'il y avait, parce que nous étions nous-mêmes pris à partie, nous, en tant que famille biologique, par la base et tout ça, qui nous accusait de tas de choses, au point où on s'est même demandé si c'était pas le même pouvoir qui manipulait des gens, pour évidemment amener à cela, parce que nous avons entendu par la suite que le gouverneur qui avait accordé ce bout de terre était lui-même avait été menacé par sa hiérarchie, lui reprochant d'avoir fait ce geste-là. Est-ce que ce ne sont pas eux qui se sont mis ensuite derrière pour manipuler? Mais la situation était tellement tendue que ça n'allait pas être possible de faire cela en toute quiétude. Nous, notre souci a toujours été d'enterrer notre leader dans toute quiétude, sans qu'il y ait de débordement, qu'on lui réserve les honneurs dus à son rang, à sa carrière.
Alors, d'ici quelques jours, ça fera exactement une année, depuis qu'il a tiré sa révérence. Quel message pouvez-vous adresser aux autorités quant à ce...
Non, aucun. Je n'ai pas de message à leur adresser. Pourquoi? Je vous ai dit ici qu'ils ont manifesté du mépris à notre égard. Quelle réaction vous avez vis-à-vis de quelqu'un qui vous manifeste du mépris, à part celui de prendre note de ses actes, c'est tout. Il y a rien à... J'ai pas de message particulier à leur envoyer. Ils savent ce que nous voulons, ce que nous souhaitons. Soit ils acceptent d'y accéder ou ils nous le refusent et bon, on continuera comme ça.
Cette émission est en train de tendre lentement mais sûrement vers sa fin. Félix Tshisekedi, revenons à l'UDPS. Plusieurs observateurs estiment que l'UDPS s'est vidé de sa substance. Plusieurs personnalités influentes ont quitté le navire. Aujourd'hui, quelle est la santé de ce parti?
Si l'UDPS s'était vidé de sa substance par le départ des personnalités auxquelles vous faites allusion, je ne sais même pas à qui d'ailleurs, à qui vous pensez, enfin, peu importe, je crois que on l'aurait vu ailleurs, parce que ces personnalités en partant, elles auraient été se recycler ailleurs, ou refaire quelque chose d'autre. On aurait vu cette chose. Alors, de quoi parlez-vous? Parce que l'UDPS, elle est là. Celle que vous dites s'être vidée, elle est là. Mais ces personnalités, on ne les entend pas. Alors, de quoi parlons-nous? L'UDPS est là. L'UDPS a connu des soubresauts, ce qui est tout à fait normal, parce que l'icône qui représentait notre parti, qui le dirigeait, est une personne, j'allais dire, irremplaçable, même si je ne crois pas au fait qu'on soit irremplaçable, mais Étienne Tshisekedi, c'est un animal politique, c'est une icône, comme je le disais, on n'en refait pas, on n'en retrouve pas à chaque génération. Ce que nous essayons de faire, nous, c'est de capitaliser sur tous les enseignements qu'il nous a donnés. Nous les connaissons, nous avons œuvré à ses côtés, marché avec lui, subi même certaines affres de dictature et tout ça avec lui. Nous savons ce qu'il voulait, nous allons essayer de continuer le combat après lui. Et croyez-moi, tant que nous serons vivants, ce rêve sera possible parce que nous allons le réaliser.
Pour conclure cette émission, Félix Tshisekedi, comment vous entrevoyez la suite du processus politique au cours de cette année 2018?
Très franchement, je vous dis, si Joseph Kabila reste à la tête du pays, nous n'irons nulle part. Dans quelques semaines, vous apprendrez même que ce ne sera plus possible de respecter ce calendrier que je disais boiteux tout à l'heure. Donc, c'est pour nous, la solution aujourd'hui passe par la mise à l'écart de gré ou de force de Joseph Kabila. Quand je dis de gré, c'est par sa volonté, de force, c'est par la volonté du peuple. Si ce n'est pas fait, nous allons toujours piétiner, tourner en rond et finalement ne pas aller à des élections. Pour y aller, il faut que Joseph Kabila quitte le pouvoir. Ça va faire bientôt 2 ans qu'il n'est plus dans les délais constitutionnels. Donc je crois que c'est 2 ans de trop, parce qu'il y a eu énormément de morts à cause de cette histoire. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas de l'acharnement qu'on fait sur un individu, c'est simplement une proposition que nous faisons pour le bien du Congo et des Congolais.
Félix Tshisekedi, président du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, merci d'être venu à Grand Interview.
Merci beaucoup.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Je recevais Félix Tshisekedi, président du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Supervision et réalisation, Tina Salama, assistée de Donna Madimba. Mise en onde, Héritier Sidiakala. Présentation et coordination, Alain Irung Mouchinj. Merci de votre attention. Au revoir.